Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur la Radio Mondiale avec aujourd'hui la Ligue des Champions. Elle est de retour et nous aussi, n'oubliez pas, double dose avec un Radio Foot avant les matchs et après les quarts de finale. Allez! Avec en vue cette finale avant l'heure, ce choc si prometteur au stade Santiago Bernabéu ce soir. Le Real Madrid reçoit Manchester City. Le champion en titre se déplace chez le club le plus titré de cette compétition reine. Une confrontation où l'on verra qui, des Merengues ou des Citizens, est le meilleur club du moment. Pour les Gunners, de retour au top en Ligue des Champions, ils reçoivent à Londres ce soir des ogres bavarois qui n'ont plus que cette compétition ou briller cette saison. Arsenal-Bayern Munich, le deuxième choc de cette soirée européenne. Et puis nous évoquerons un documentaire qui nous a beaucoup plu à Deauville la semaine dernière, mêlant le sport à l'éducation, les valeurs du sport qui peuvent structurer un être humain. Et ce documentaire franco-allemand s'appelle « Apprendre à être ». Et vous l'aviez sélectionné à Deauville. Bonjour Philippe Doucet.
Bonjour Madame Annie, on l'avait volontiers sélectionné.
Hein, oui, parce que nous y reviendrons, parce que c'est ce qui parle de football, notamment de la Fédération française de football, et puis aussi des valeurs éducatives, tout simplement. À vos côtés, Hervé Penaud, qui est arrivé en combi Volkswagen, apparemment. Bonjour, Hervé.
Bonjour, quel plaisir d'être en compagnie.
Pourquoi
je suis venu comme ça? Parce que je ne prends que le métro, vous comprenez? Parce que ça me rappelle des vieux souvenirs quand j'avais une voiture.
Exactement.
Les métros et Volkswagen.
Je suis contre le CO2.
C'est une nouvelle. Voilà.
Pour le foot et contre le CO2.
Oh là là, bon. Mais il faut rouler quand même. Bonjour, Bruno Constant.
Bonjour, Annie. Bonjour à tous.
Tout va bien?
Oh, très bien.
Ouais, des clubs anglais, là.
Des beaux matchs à venir, donc tout va bien.
Deux clubs anglais qui jouent ce soir, ça fait beaucoup. Il faudrait qu'à Dieu.
Bah, il n'y en a plus que deux.
Il y en a plus que deux, moi, j'ai envie de dire.
Oui, mais ils jouent le même soir.
Ouais.
C'est mal foutu. Drôle de coïncidence. Oui, exactement. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission avec Pierre Guérin. Mathieu De Galdre est à la réalisation. En Radio Foot, c'est parti.
L'Oréal sera une grande menace pour Manchester City.
Remember last time? 4-0.
On en restera là avec ce match de la partout. Énorme move de soulagement pour le Real Madrid dans la douleur.
Le tenant du titre n'a pas tremblé dans cette double confrontation avec le luxe de laisser 7 titulaires sur le banc au coup d'envoi.
That's the heritage of Manchester City.
Real Madrid, Manchester City, nous voici dans l'ambiance. On avait imaginé que ce pourrait être une belle affiche pour le 1er juin prochain au stade de Wembley à Londres, un final en feu d'artifice. Eh bien non, ce sera un quart de finale feu d'artifice. Mais quel cadeau ce soir. Nous profiterons donc de ce qui promet d'être un beau match entre cette équipe des Merengues et celle des Citizens. Imaginez deux équipes avec deux grands entraîneurs sur le banc, Mister Carlo Ancelotti d'un côté, Pep Guardiola de l'autre. Palmarès et expérience aussi. Et puis, sur les bancs, de grands noms. C'est la quatrième fois que ces équipes se retrouvent en cinq saisons, hein, les cinq dernières saisons de Ligue des Champions. Y a-t-il finalement, peut-on dire, avantage à quelqu'un, Bruno Constant?
Il y a peut-être un léger avantage à Manchester City, qui est déjà le champion d'Europe en titre.
Mais vous pensez à l'aller-retour, peut-être, déjà?
Ouais, non, pas forcément bientôt, mais même par rapport aux forces en présence, il y a une équipe du Real qui est en reconstruction, qui n'a pas vraiment de numéro 9, mais qui est dans une phase avec un rajeunissement, un nouveau milieu de terrain depuis 2 ans, l'arrivée de Bellingham, le départ de Benzema qui n'a pas été vraiment remplacé, l'absence de Courtois aussi. Et de l'autre côté, on a Manchester City qui est quand même dans la force de l'âge. C'est une équipe qui est champion d'Angleterre pour 3 années, qui a fait 2 finales de Ligue des Champions récemment et une victoire. Et puis voilà, Guardiola et tout ce qu'il voulait pour constituer son effectif. Même s'il y a eu des départs préjudiciables comme Gundogan. Voilà, on a Haaland en pointe, on a De Bruyne derrière lui, on a Bernardo Silva. La défense, on n'en parle même pas. C'est une, c'est une équipe de monstres, hein, quelque part.
En même temps, si on regarde les statistiques, je m'attendais à vous, hein, Philippe Doucet.
Ah, dès qu'on parle, ça, ça. Quand on parle football, c'est vers moi, pour que les gens le sachent. Mais quand on parle statistiques, c'est vers Philippe.
Non, mais j'aime bien le chatouiller, parce que je sais qu'il aime plus ça, les statistiques. Mais
c'est tellement développé ça que j'en fais une allergie, maintenant. Quand je vois tout le monde mal les utiliser, ça m'agace.
Bah, je vais aller dans votre sens, quand même, parce qu'effectivement, quand on les regarde froidement, ça peut être intéressant ou pas à la fois. Il y a 3 victoires pour le Real, 4 pour les Citizens en 10 confrontations. Et en même temps, on se souvient tous quand même du dernier match. On se souvient.
Le 4-0. Ouais.
Voilà, le 4-0 avec des Merengues vraiment ballottés en Angleterre et éliminés de leur Ligue des Champions. Alors d'ailleurs, on va l'écouter, Aurélien Tchouaméni, parce que eux non plus, ils n'ont rien oublié.
On est le Real Madrid. On ne peut pas avoir perdu une équipe. Au contraire, on est très content de jouer contre cette équipe-là parce que. Pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Ça a beaucoup de signification pour nous, étant donné que c'est eux qui nous ont sortis l'année d'avant. Donc on aura cet esprit revanchard, on aura à cœur de montrer le visage du Real Madrid. Donc on va prendre match après match et on espère qu'on sera là en juin pour soulever ce trophée.
On a l'impression quand même, Philippe, que hormis toute statistique, il y avait eu 1-1 au match aller et il y a eu ce 4-0 au match retour. Les Merengues, ils s'en souviennent bien et il y a peut-être pas un esprit de revanche, mais en tout cas de se racheter.
Non, il est clair que sur des matchs de cette importance, de ce niveau-là entre des énormes équipes, il est évident qu'il y a des ascendants psychologiques parfois qui ont plus d'importance même que les statistiques. Mais les ascendants psychologiques, cela dit, quand c'est un an après... C'est pas tout à fait pareil non plus, parce qu'il s'est passé énormément de choses entre-temps.
Exactement.
D'ailleurs, plutôt favorable à Manchester City, en l'occurrence, parce que gagner finalement cette Ligue des Champions, affirmer ce qu'il prétendait depuis des années, à savoir être parmi les meilleures équipes d'Europe, voire la meilleure, ça leur donne quand même des certitudes qu'ils ont affichées d'ailleurs tout au long de cette campagne. Donc, c'est ça, il y a des ascendants psychologiques et on va en juger ce soir. C'est difficile de le juger parce que. Bah parce que le Real, ça reste le Real, c'est-à-dire que c'est des monstres, c'est-à-dire que vous êtes armés, dès que vous avez ce maillot, on sent que cette équipe, elle est armée pour tous les combats, et je suis persuadé qu'elle ne sera pas du tout complexée, qu'elle sera tout à fait capable de relever ce défi, même s'il semble extrêmement difficile.
En même temps, on se dit, Hervé, Ancelotti, il a appris quand même lui aussi de cette défaite dont il ne parlera pas forcément, mais le Real Madrid, d'autant qu'il survole, eux, le championnat espagnol, alors que City doit finalement se battre toutes les semaines, hein, pour rester en course pour le titre, parce que ça se joue pas avec 8 points d'écart souvent en
oui,
Angleterre.
Mais Ancelotti, vous savez, il connaît parfaitement l'équipe de City. Alors il y aura peut-être des petits changements, parce que vous savez, les grands entraîneurs, ils aiment bien trouver 2-3 petites choses qui peuvent créer de la surprise.
Mais quand
chez
même, le Real n'est plus le même que l'année dernière. Non. Philippe dit l'année dernière. Alors c'est sûr que le côté psychologique chez City s'est passé, c'est-à-dire cette barrière. On l'a dépassé, on a enfin gagné. Mais en même temps, le Real, on peut se dire que depuis l'année dernière, il s'est peut-être renforcé.
Alors, c'est bizarre, ce Real, parce que honnêtement, on pensait que ce serait une année, si ce n'est de transition, une année peut-être un peu plus compliquée.
Oui,
ils ont eu des blessures.
Bruno parlait de transition.
Alors, vous perdez Courtois quand même, c'est pas rien. Courtois, quasiment sur l'année. C'est une.
Bah vous avez
une
perdu les deux joueurs qui ont fait gagner le Real il y a 2 ans.
Complètement.
Plus Courtois et Benzema.
Après, vous perdez à là-bas. Vous avez Militao qui était blessé. Bon, là, il revient. Vous avez une défense que vous avez reconstruite, déconstruite, reconstruite. Enfin, c'est absolument incroyable. Et au final, vous êtes quand même leader du championnat d'Espagne. Un championnat d'Espagne qu'on croit un peu moins fort que les années précédentes. Mais mine de rien, ils ont 3 équipes en quart de finale. Donc, ça prouve qu'il y a quand même du potentiel. Ça veut dire quelque chose. On serait bien content d'avoir ça chez nous. Donc, du côté du Real, moi, je pense que l'année dernière, enfin, ce qui s'est passé, c'est un problème de niveau, tout simplement. C'est quand vous tombez contre vraiment plus fort que vous, vous pouvez avoir Ancelotti, pas Ancelotti, Guardiola, pas Guardiola sur le banc. Ils ont été en difficulté. J'ai la sensation, enfin, peut-être que je me trompe complètement, mais ce Manchester City qui n'a pas perdu depuis 28 matchs, hein,
25.
Bon, qui n'a plus perdu depuis, je croyais que c'était un peu plus, 25 matchs, qui semble revenir avec un Haaland plus fort que ces derniers temps où on l'avait vu un peu en difficulté, De Bruyne qui a eu aussi un petit peu de mal à revenir, qui semble, lui, revenir dans le coup, sur un aller-retour, parce que sur un match sec, c'est un petit peu différent, les analyses seraient peut-être différentes. Moi, j'ai la sensation que c'est quand même un petit peu plus fort. Et si j'avais un favori, je serais un peu d'accord pour mettre Manchester City.
On se souvient qu'il y a deux ans, même si on se disait « Oh, City », il y a deux ans, c'est... Alors, le retour était à Madrid, ça avait peut-être joué, mais en tout cas, c'est eux qui avaient renversé City, justement.
Oui, d'une manière très étonnante.
Déjà à l'époque, oui. Le Real était un peu sur un fil.
Oui,
il était pas loin de chuter, il se rééquilibrait à chaque fois au dernier moment, dans tous les tours où il est passé, on se demandait mais comment ils ont fait.
Grâce à Benzema,
il y avait quelque chose d'un peu irrationnel.
Et
déjà, City était quand même très dominant dans le jeu et dans la confrontation.
Dominé dans le jeu, on le s'en souvient, hein. Des fois ça veut pas dire
bien
se
sûr.
Qualifier,
et
la preuve.
C'est pour ça que le fait d'avoir gagné, et tout le monde le dit, tous se disent qu'une fois qu'on l'a gagné, on comprend. On a compris comment ça fonctionnait, on a compris comment on gérait les émotions. On gère pas du tout la même manière. D'ailleurs, le Real, la manière dont gérer les émotions, c'est parce qu'ils ont un vécu extraordinaire, un palmarès extraordinaire. C'est aussi pour ça qu'ils paniquent jamais dans les matchs.
Jamais.
Et peut-être que City l'a acquis, on va le voir, peut-être qu'ils l'ont acquis pour cette
saison. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, je regardais ça tout à l'heure, c'est le nombre de joueurs qui sont sous le coup d'une suspension au match retour.
Ça peut jouer, ouais.
Et ça, du côté du Real Madrid, il va
falloir
être très...
Et pas des moindres, parce que Vinicius, Bellingham,
Tchouaméni... Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du côté de Manchester City, ils vont jouer là-dessus, hein. Il y a pas de doute, parce que si vous n'avez pas Vinicius au retour, si vous n'avez pas Tchouaméni et évidemment Bellingham, c'est quand même un des facteurs X aussi de l'équipe, ça changera beaucoup de choses.
Philippe, en même temps, on a l'impression que justement, alors il y a toujours les anciens, l'expérience, ceux qui en ont gagné je ne sais plus combien, les Modric, Kroos, Rudiger, même Rudiger qui n'est pas là depuis si longtemps mais qui a une grosse expérience au plus haut niveau, mais il y a aussi Bellingham qui a confirmé, on a Rodrigo, ce gardien qui remplace Thibaut Courtois et finalement de très belles manières. Donc on a quand même la sensation que ce Real, par rapport au 4-0, il va un peu mieux.
Je dirais pas que l'équipe s'est renforcée, je dirais pas non plus qu'elle est forcément plus forte que l'année dernière. Par contre, elle est plus forte sur certains domaines. Par exemple, physiquement. Elle est peut-être un peu moins technique qu'elle n'a été, mais on sait que si Tchouaméni joue derrière, c'est pas par hasard, c'est que Ancelotti s'aperçoit un peu qu'il y a quand même besoin d'être costaud quand même dans certaines zones. Tchouaméni, Rudiger, c'est quand même assez costaud. Kamavinga impose aussi un volume de course intéressant au milieu de terrain. C'est une équipe, et Bellingham également. Donc c'est une équipe un peu différente quand même, peut-être moins technique, moins impressionnante, moins fine techniquement que ses prédécesseuses.
Triss aussi.
C'est pareil.
C'est les mêmes, de toute
comme
façon.
Comme vous voulez. Ouais, en tout cas, vous avez compris. Vous avez compris, c'est bon. Moi, je me méfierais beaucoup de ce Real qui me semble tout à fait capable de la jouer à l'envers un petit peu contre City, de les laisser jouer et puis d'essayer de les contrer et de leur faire très mal. Et dès le match aller, ils n'auront pas peur de faire ça dès le match aller. C'est une équipe venimeuse, le Real, qui peut être très ennuyeuse pour Manchester City.
C'est ça qui me fait peur, c'est que le Real a exactement les qualités qui peuvent faire mal à ce City-là. Cette saison, City sont en gros danger dès qu'ils sont contrés. Ils n'ont plus cette capacité à être fort, efficace à la perte du ballon. Ils ont concédé près de 30% de leurs buts sur des transitions rapides. C'est énorme pour une équipe comme City qui était plutôt autour de 8-10%. Et la force du Real, pas que cette année, mais de la marque de fabrique depuis quelques années, c'est justement les transitions rapides avec Vinicius, maintenant avec Bellingham qui se projette, la vitesse de Rodrigo aussi.
Et pas oublier Rodrigo. Ouais.
Et ils sont capables aussi, même si c'est le Real, d'assumer de faire le dos rond, de jouer défensif chez eux au Bernabeu pour aller chercher la gagne.
Il y a ce truc incroyable avec City, c'est le nombre de buts qu'ils prennent en début de match.
Ouais.
Sur quasiment les premiers tirs à chaque fois.
Et puis là,
il va falloir voir le début de match du Real, parce que tout le monde le sait.
Et puis là, c'est des matchs qui vont se jouer à un but. Il faut arrêter d'imaginer. Les 4-0, c'est rare.
C'est rare.
Ça va jouer à un but.
S'ils leur font, ce sera exceptionnel.
Ça va jouer à un but.
Mais écoutons un des joueurs de City et un des grands joueurs de la saison passée, puisque c'est Rodri, le fameux buteur de la finale. Et vous allez l'entendre, il s'en souvient autant que Tchouaméni du match, même si évidemment, lui, il était dans le bon camp.
Of course, we have the experience of last year, but we don't think much on that. To be fair,
bien sûr que nous allons nous servir de l'expérience acquise la saison dernière, mais on n'y pense pas trop. On joue à un Real de Madrid différent, avec des joueurs différents, et chaque saison est unique. On se déplace ici dans la meilleure forme possible cette saison. On doit affronter les favoris de cette compétition. On les connaît très bien. Je respecte énormément cette équipe. Ce sera un match très compliqué.
And we expect such a tough game tomorrow.
Rodri, effectivement, Hervé, un préservé sur certains derniers matchs, mais parce
sur des
que
fins de match, ouais.
tellement,
quelques minutes.
Ouais, tellement
quelques
utilisé.
C'est ce
oui.
qui veut dire beaucoup. Voilà, c'est ça le pire.
Rodri, De Bruyne, évidemment, c'est des joueurs en milieu de terrain qui sont tellement resplendissants. Vous parliez aussi de Bernardo Silva, ouais. Bruno. C'est vrai que ces joueurs, eux aussi, ils ont maintenant acquis une expérience folle.
Ah oui, complètement. Et autant des De Bruyne, des Haaland, on sait qu'ils ont ça en eux, mais des joueurs à côté comme Grealish, comme Foden, qui sont en train d'évoluer, de grandir, bah ils sont en train aussi de progresser. Et quand on regarde l'effectif de City, pour moi, il est monstrueux dans toutes ses lignes. C'est difficile de faire mieux dans toutes les lignes. Défensivement, au milieu de terrain, Rodri, c'est le meilleur au monde. De Bruyne, c'est le meilleur passeur au monde.
Haaland, Walker, c'est... l'absence de Walker.
Voilà, voilà. Walker
l'absence
ne sera
de
pas
Walker,
là.
L'absence de Walker qui fait titiller parce que, comme le disait...
Oui, puis c'est le méchant.
Bah c'est le méchant, puis c'est celui qui rattrape les coups à City.
Peut mettre,
mais voilà. Il va moins vite à Akanji.
Quand on peut remplacer Walker par Akanji, c'est quand même pas mal aussi. Quoi.
Ouais. Mm-hmm. Donc, oui, il y a du choix. Ouais.
Non, mais quand on regarde c'est vrai que je regardais le banc, là, c'est incroyable.
C'est extraordinaire.
C'est un banc de très très haut niveau.
Et encore, ça fait plusieurs saisons que la balance des transferts de Manchester City est positive. C'est-à-dire qu'ils vendent des joueurs. Ouais. Depuis plusieurs saisons, ils vendent des joueurs.
50,
et l'effectif est encore invraisemblable.
C'est hallucinant. Comme ils en ont 50. Quand on voit Phil Foden remis dans le bain, alors que, puisqu'il y avait Haaland, puisqu'il y en avait d'autres qui faisaient un peu ombre à son rôle. Et quand on voit, quand il est sur le terrain... ce petit protégé, on va dire, pendant longtemps de l'entraîneur Pep Guardiola. C'est vrai que lui, par exemple, il peut faire renverser un match. Il marque des triplés maintenant, les autres.
Il est phénoménal, puisqu'en l'absence de De Bruyne, c'est lui qui a pris ce rôle un peu de dans l'axe en soutien d'Haaland. Il sait faire beaucoup de choses. L'association avec De Bruyne, Foden, ça va marcher, parce que les joueurs intelligents, ils s'associent sans problème. Mais oui, il y a tellement de talent dans toutes les lignes que je ne vois pas comment...
on avait la sensation à un moment que Gundogan peut-être leur manquait un petit peu quand ils ont eu leur période.
Mais il leur manque, quand même.
Parce que c'est vraiment quand même un joueur. On le voit d'ailleurs à Barcelone. C'est un joueur vraiment
énorme. C'est une intelligence énorme. C'était un cerveau sur le terrain.
Et même Mahrez pouvait aussi, rentrer. Quoi. Alors en Coupe d'Europe, c'est vrai qu'il jouait peu. Mais en championnat, il avait été très utile fin de saison dernière.
Alors celui qui interroge quand même un petit peu en cette période de la saison, c'est évidemment Erling Haaland. Alors ça faisait 6 matchs qu'il ne marquait pas, mais il a marqué au cours du week-end en fin de match face à Crystal Palace. En face, il aura Antonio Rudiger, le défenseur espagnol. Et écoutons-le parce qu'il s'est déjà préparé. Il a son plan.
Erling Haaland est l'un des meilleurs joueurs au monde. Mais si je devais citer un joueur contre lequel il était particulièrement difficile de défendre, je dirais Kun Agüero. Bien sûr, Agüero ne sera pas sur le terrain, ce sera Haaland. Ça n'est pas facile d'être au marquage de ce joueur parce que son jeu dépend de ses coéquipiers. Vous ne pouvez pas tout contrôler, comme les passes de De Bruyne vers Haaland, mais il faut essayer de contenir le mieux possible les joueurs autour de lui pour que ce soit plus facile de défendre.
Le défenseur allemand des Espagnols, donc Antonio Rudiger. Est-ce qu'on peut avoir un plan anti-Haaland? On parle toujours les plans anti-Mbappé, les plans anti-Benzema à l'époque. Est-ce que ça existe?
Ça existe parce que certains diront que l'année passée, sur les 2 matchs, on n'a pas vu beaucoup Haaland. Mm-hmm. Alors moi, je leur réponds que si on n'a pas beaucoup vu, c'est parce qu'il y avait souvent des joueurs à côté de lui. Et s'il y a des joueurs à côté de lui, ça libère des espaces pour les autres. Donc on est quand même dans une équipe à City où l'entraîneur Guardiola, si Haaland ne marque pas de but, ça ne le dérange absolument pas. Il sait qu'il y aura des déséquilibres ailleurs et il va s'en servir. Donc si Rudiger va chercher le contact avec Haaland, il adore ça. Donc ils vont matcher, ça va un peu bastonner dans la surface. Il y aura peut-être aussi parfois des prises à deux. Mais encore une fois, ça peut libérer des places pour Foden, pour De Bruyne, pour Grealish s'il joue, je pense qu'il va jouer. Mais non, il y a...
Il ne faut pas oublier que la première Ligue des Champions, il la gagne l'année où il a Haaland.
Oui.
C'est tout. Alors
il a toujours dit d'ailleurs qu'il avait été recruté dans ce but-là.
Exactement.
Il a assumé.
C'est vrai qu'aujourd'hui...
Il
n'a
pas marqué ni en demi-finale ni en finale l'année dernière.
Non, tout à fait. Parce que jusqu'à la demi-finale, on s'était dit que ça avait été un peu le facteur X. Et puis au final, la Ligue des Champions, ça a été celle de Guardiola finalement, plus que celle de Haaland. Mais aujourd'hui, dans l'équipe, là, on avait toute une batterie de statistiques sur Haaland. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, il marque très peu contre les grosses équipes.
Oui.
Et il marque énormément contre les petites équipes.
Alors, Bruno n'a pas du tout aimé ces statistiques.
J'ai pas dit que les statistiques veulent tout dire. C'est pas du tout ça.
J'ai un gros bémol.
Mais en revanche, c'est drôle.
J'ai un gros bémol sur cette stat parce que ça tombe l'année où City ne gagne pas contre les gros. Et moi, pour avoir vu tous les matchs, le principal responsable dans ces matchs-là, c'est pas forcément Haaland. C'était plus un problème de structure, de problème à la perte du ballon. Ils ont beaucoup de mal à la perte du ballon. Mais voilà, résumer les problèmes de City à Pascal Anne,
personne n'a marqué beaucoup dans les gros matchs.
Voilà,
bah, disons-le clairement. Voilà. City n'a pas fait tant de points que ça dans les gros matchs.
Ni contre Arsenal, ni contre Liverpool, ni contre Tottenham et troisième, j'ai oublié, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Aston Villa, ils ont gagné le match retour à domicile.
Ouais.
Mais en dehors de ça, ils ont eu beaucoup de difficultés face à ces équipes-là.
Il n'y a que United qu'ils arrivent à battre.
À peine.
Attention, je ne dis pas que c'est une photographie absolue, mais c'est drôle. C'est-à-dire que c'est des éléments aussi qu'on peut prendre en considération. D'ailleurs, dans ce classement, le deuxième, c'est Nicolas Jackson.
Bah oui.
Contre le top 5. Ouais. C'est drôle. Ouais. Il lui a plus de difficultés contre les petits.
Non, mais Haaland,
Philippe,
c'est...
ouais. À Haaland, parce qu'il a, il y a un moment, il ne marque pas, mais il faut bien le dire, et on le dit assez souvent, et Bruno le rappelle, il a un autre rôle aussi. Moi, je me souviens à l'époque de Romario, hein, on disait, oui, un peu, il marche dans la surface, tout, mais quand il était là, eh ben forcément, les défenseurs regardaient Romario et avaient peut-être moins le regard sur les autres.
Parce que Haaland ne fait pas grosse impression, parce qu'il touche un minimum de ballons, en fait, dans le circuit de jeu de Manchester City, il touche un minimum de ballons. Il n'est pas le joueur, il ne fait pas d'appel en profondeur, il essaie de venir en pivot et essaie de toucher, d'être touché. Et en fait, les plans anti-Haaland, ça ne veut rien dire. Ce qui est le vrai plan, c'est anti-passe de De Bruyne, passe de Bernardo Silva. C'est ça que l'adversaire doit empêcher.
Et c'est ce parce que dit, c'est ce que dit Rudiger. Hein.
Haaland lui-même ne peut être dangereux que sur des très bons ballons.
Mais
de
vous
de
avez
Bruyne,
entendu,
Bernardo
Rudiger,
Silva.
Il dit vous ne pouvez pas tout contrôler comme les passes de De Bruyne. Alors,
voilà, c'est ça.
Voilà, ah, oui. Exactement.
Mais l'année dernière, on avait la sensation qu'il jouait plus sur la profondeur. Le problème de Manchester City, on est venu plus dans un jeu encore de possession et de position aujourd'hui. Et c'est vrai que quand vous êtes attaquant dans une équipe qui joue très haut, avec des joueurs, vous avez 10 joueurs dans un petit périmètre, trouver des espaces, la faut être costaud, trouver de la profondeur quand il n'y en a pas du tout, alors vous pouvez toujours la créer un petit peu, enfin, c'est pas simple quand même, c'est le moment de se dire.
Ce soir, ça va être un match qui va ressembler certainement au match aller de l'an dernier, qui était hyper crispé, hyper serré, où le Real attendait pour déclencher des contres sur la flèche Vinicius. Et pendant ce temps-là, Manchester City finalement se retrouve dans une position en se disant « bon, tant que j'ai le ballon, je ne suis pas en danger ». Donc je joue sur la possession, mais je ne cherche pas forcément à aller marquer, parce que si je cherche trop à aller marquer, je vais me faire contrer par Vinicius et Rodrigo.
Il y a un autre élément sur Haaland.
Donc souvent, c'est des matchs finalement très fermés, paradoxalement, entre ces deux équipes si riches offensivement.
Oui, mais par contre, tactiquement, c'est magnifique.
Ah ben, c'est passionnant.
Il y a un autre aspect sur la saison d'Haaland, c'est qu'il est aussi...
il veut le défendre, son Haaland.
Non, mais la saison passée...
Il est norvégien, il me semble.
La saison passée, il y avait une énorme connexion... entre De Bruyne et Haaland, il y avait une énorme connexion entre De Bruyne et Haaland, qui était son meilleur passeur sur ses buts. Et cette saison, De Bruyne, il a raté la moitié de la saison, voire plus, parce qu'il est même revenu de blessure.
Même Haaland a été un peu blessé aussi.
Il a eu des pépins. Il a eu aussi une blessure, Haaland. Et tant qu'ils n'auront pas retrouvé la connexion De Bruyne-Haaland, forcément, il y perd un petit peu, Haaland.
Ce soir, le triplé, ça lui faire du bien.
On verra. Qui voit City s'imposer au Real?
Je vois passer, en revanche. Ce soir, je ne sais pas.
Je trouve que c'est très, très compliqué de donner un pronostic sur ce match.
Oui, mais c'est parce que toi, tu n'as jamais aimé te mouiller, mais moi, je me mouille. je me mouille.
Je trouve qu'il y a tellement de déséquilibre. Ça peut faire 2-0 Real comme ça peut faire 2-0 City et le match est plié.
Là, tu t'es pas mouillé.
Ah oui, tu reviendras. Bon, tu n'as pas un autre pronostic.
Il y a trop de déséquilibre.
Ça peut faire des mots, Philippe.
Non, moi, je pense que le Real ne perdra pas. Peut-être un nul comme l'an dernier ou une courte victoire du Real me paraît vraisemblable.
Ouais, moi aussi, je pense que le Real quand même.
Et donc je vais vous mettre City alors. Même ce soir.
Toi, t'es un parieur, toi. T'es pas,
je suis un parieur.
T'as aucune conviction finalement.
Aucune.
Et bon, sachez-le, ce soir, Rémi sera avec nous pour évoquer le match. Il sera dans la deuxième émission puisqu'il y aura
une deuxième.
Enfin,
Mourinho au Real.
S'il survit émotionnellement au match, il va peut-être être
absent. On l'a vu pendant la CAN avec le Cameroun et on doit dire que le pauvre Rémi, on essayait de l'aider parce que. On a cru qu'il allait avoir des crises cardiaques.
Donc c'était plutôt sympa l'élimination assez tôt comme ça, parce que sinon ça aurait été trop dur pour lui.
Allez, on continue parce qu'il y a un autre match choc.
Ah bon ?
Ah, de ce côté-là, il n'est pas prenable, Raya ! Arsenal, propulsé au quart de finale par l'inspiration de son gardien espagnol.
Et c'est bien sorti par Giroud Immobile ! Oh, la bête énorme ! Oh, ce but incroyable de la part de Matthijs de Ligt ! La reprise de volée ! Version !
De finale retour qui voit la victoire du Bayern Munich 3-0
et Saka derrière qui réveille l'esprit conquérant des Gunners, le caractère orgueilleux de cette équipe. Il y a de la rage comme une fureur, il y a beaucoup d'ardeur
cet autre match qui promet ce soir. Alors, un peu moins pompeux si on regarde les palmarès, mais avec deux très grandes équipes d'Europe, évidemment, et de cette compétition, qui sont dans des formes, par contre, très différentes. Les Gunners, donc, d'Arsenal, coiffés au poteau l'an dernier, on s'en souvient, en championnat, et qui viennent de reprendre la tête du championnat d'Angleterre, alors que les Ogres bavarois, eux, bon, ben, on peut dire qu'ils ont dévissé hein, depuis, et chaque jour plus, ils sont à 13 points désormais du leader incroyable qu'est le Bayer Leverkusen. Alors adieu au titre pour les Rekordmeister d'Allemagne, mais aussi bonjour les fessés sur leur pelouse face à Dortmund dans le Klassiker d'Allemagne, c'était il y a une dizaine de jours. Et puis ce week-end, c'était face au 10e de Bundesliga qui du coup eh bien, s'est acheté une belle carte de visite, et c'est le FC Heidenheim, si je le dis bien. Alors justement, la Ligue des Champions, le seul trophée en ligne de mire pour le Bayern, et Mikel Arteta, vous allez l'entendre, eh bien, il exprime beaucoup de respect face à l'entraîneur, son homologue du Bayern, et il s'agit de Thomas Tuchel.
C'est une équipe excellente. Je suis un grand admirateur de Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern. La manière dont son équipe se déplace, joue sur le terrain. On sent que cette formation s'est imprégnée des idées de son entraîneur. Quand vous regardez attentivement, on voit qu'elle est excellente. Nous, on s'est bien préparé. On devra savoir gérer le rythme du match collectivement pour espérer gagner. On connaît leurs qualités individuelles, tous ces grands joueurs sur le terrain, notamment Harry Kane et son efficacité. La meilleure chose à faire pour nous est de travailler collectivement pour obtenir un résultat.
Alors Hervé, est-ce que cette rencontre est déséquilibrée selon vous à Londres? Est-ce que les hommes d'Arteta sont super favoris même s'ils respectent l'adversaire?
Ah non, surtout pas. Surtout pas. Et là, on
surtout
est
pas dans... respecté?
Ah non, surtout respecté, mais surtout pas favori. Parce que là, on se retrouve exactement dans le cadre de figure de ce qu'on disait tout à l'heure, mais l'effet inverse. C'est-à-dire que Arsenal, c'est une équipe qui a assez peu d'expérience de la Ligue des Champions, et mine de rien, c'est une épreuve...
C'est depuis 2010 hein, qu'il n'était pas à ce niveau.
C'est ça. Donc c'est une compétition, on a besoin, vous savez, d'avoir cet ADN-là. Ce qu'a le Bayern. Alors le Bayern, en championnat, ils peuvent être à la rue, mais ils n'empêchent, ils connaissent ce type de tour de compétition, et cette sensation, ce qu'il faut faire pour aller un petit peu plus loin. Et... pour Arsenal, il y aura quand même une sorte d'inconnu arrivé là. Il y a pas de joueur qui a fait des gros parcours en Ligue des Champions, ce Arsenal.
Bon,
il y a
Gabriel
beaucoup de jeunes.
Jésus,
il y a Gabriel Jésus, un petit peu
Avert
City,
aussi,
mais il y a pas de. Oui, mais c'est pas des impact players. C'est pas des joueurs qui ont été immenses pour l'instant dans cette compétition. Ça veut dire que moi, j'ai cette petite incertitude sur Arsenal, qui est quelle sera sa capacité justement à vaincre un peu ces nouveaux tours qu'ils vont découvrir.
Alors l'incertitude autour d'Arsenal, Bruno, l'année dernière, par exemple, quand on suivait cette équipe en championnat qui à un moment survolait son championnat et qui après s'est un peu effrité, puis la concurrence revenant, et ils n'ont pas tenu la distance. Mais là, on a l'impression justement qu'ils ont appris de l'année dernière aux deux gardes, William Saliba, qui avait tellement manqué l'année dernière, qui est présent. Est-ce que Arsenal rééquilibre pas quand même ses forces pour attaquer cette compétition à ce stade ?
C'est difficile à dire parce que ce qu'on retient d'Arsenal, ce qui nous rend optimistes avec Arsenal, c'est leur parcours en Première Ligue. Mm-hmm. Mais ce qu'ils réalisent en Première Ligue, ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions, qui est encore un cran au-dessus et où l'aspect défensif est très important. Mais là, encore une fois, la gestion des émotions est très importante. Mm. Et cette saison, on l'a vu d'ailleurs face au FC Porto, qui est une bonne équipe, mais qui n'est pas un ogre européen. Et ils ont souffert, ont énormément souffert, et à s'imposer, et à mettre en place leur jeu. Parce qu'en face, ils ont une équipe qui les a fait déjouer. Et ça, ils avaient du mal, et c'est quelque chose contre lequel ils n'étaient pas confrontés en Première Ligue cette saison, parce que quasiment dans chaque match, ils ont imposé leur jeu, même à Liverpool, même à City, ils ont imposé leur manière de défendre, leur manière de contrôler un peu le jeu. Et ça, c'est la patte d'Arteta. Pour le coup, Arteta, il y a les joueurs qui sont jeunes et qui apprennent, mais il y a aussi Mikel Arteta qui apprend énormément. Il a un peu inspiré de ce que fait Guardiola à City, mm-hmm. Il a travaillé avec lui. Mm-hmm. Cette saison, ils ont géré leurs efforts. Sur la première partie de saison, ils n'étaient pas flamboyants, ils étaient un petit peu cachés dans l'ombre, deuxième, troisième de Première Ligue, sans trop de pression, et petit à petit, ils sont montés en puissance. Et là, ils apparaissent en mars-avril, en pleine bourre, et ça se voit d'ailleurs, parce qu'ils ont récupéré la place de leader de Première Ligue, devant City, mais aussi devant Liverpool, parce qu'ils battaient avec les deux.
Mmh. Alors bon, c'est une histoire de points, là. On est à un point.
De différence de but.
Jouer des coudes avec les deux, il faut quand même
être
costaud.
Non, bien sûr. Ouais. Philippe, quand même, cette équipe d'Arsenal, elle arrive avec peut-être plus de certitude quand même, avec plus de aussi la philosophie d'Arteta.
Il y a moins de doutes. Il y a moins de doutes
et puis ça s'installe quand même. Arteta, il est là depuis longtemps. Mmh. Et on a l'impression qu'en plus, que ses dirigeants ne le pressent pas tant que ça. Ils lui donnent le temps d'installer quelque chose.
Oui, tout à fait logiquement d'ailleurs. Ce n'est peut-être pas le cas de tous les dirigeants.
Nous, on trouve ça très bien.
Oui, ce n'est peut-être pas le cas de tous les dirigeants, mais c'est évidemment comme ça qu'il faut procéder, parce qu'il faut apprendre. Et la Ligue des Champions, c'est une gestion des émotions, une gestion des moments forts qui est différente. Le phénomène du match aller-retour, ce n'est pas du tout la même musique que le phénomène d'un championnat où on peut s'installer sur la durée. Il est évident que Arteta et les autres ont à apprendre de cette compétition. Pour autant, je trouve que Arsenal a singulièrement progressé par rapport à l'année dernière, où ils ont fait
sur
un parcours
émotions,
merveilleux. C'est un parcours fantastique jusqu'à avril. Donc franchement, même s'ils n'ont pas été tout à fait au bout, c'était face à Manchester City, on peut quand même l'expliquer et le comprendre et l'accepter.
Presque les excuses.
Mais je trouve que cette année, dans les gros matchs, ils ont été beaucoup plus sereins, beaucoup plus costauds. Et me semble,
ils ont fait match nul.
En tout cas,
il me semble au niveau
pour, pourquoi pas, gagner la Ligue des Champions ou autre. Sauf que jusqu'ici dans cette épreuve, effectivement, ils ont parfois balbutié un petit peu, parfois été très nerveux contre Porto, je les ai trouvés très nerveux. Et voilà, c'est l'apprentissage de cette compétition qui est un vrai challenge. Et à l'inverse, moi je me souviens des matchs du Bayern, de quelques matchs du Bayern cette année en Ligue des Champions, qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils font en Bundesliga, où ils ont fait des très très bons matchs, avec des certitudes qu'on ne retrouve pas bizarrement dans l'ensemble de leur saison. Mais parfois, contre la Lazio, ils étaient très impressionnants. Vous me direz que la Lazio n'est peut-être pas du même calibre, certes, mais vraiment, c'était un Bayern tel qu'on le connaissait. Et je me méfierais beaucoup à la place d'Arsenal. Je me méfierais énormément de ce match. Je ne pense pas d'ailleurs qu'ils le prennent à la légère.
C'est là où le vécu du club, on parle souvent d'institution, du Real Madrid, de ce que ça impose sur la scène européenne. C'est pareil, le Bayern, il y a cette habitude d'être à ces rendez-vous-là, dans cette compétition-là. Arsenal, ils l'ont moins. Mm-hmm. Ils l'avaient plus depuis,
ils l'avaient perdu,
depuis 7 ans en Ligue des Champions.
Ça remonte à Arsène Wenger.
Ils ont même été battus par Lens, Arsenal.
Ouais. Ils ont été surpris.
Et Arsenal n'a pas été testé encore, moi, je trouve, cette saison en Ligue des Champions, parce que leur groupe était assez faible.
Tu disais contre Porto, ils s'en sortent bien.
Ils s'en sortent bien.
Parce que Porto a fait un gros match. Ouais. Donc,
mais Hervé, par contre, le Bayern, on a du mal à comprendre cette saison. Enfin, comprendre ses hauts et ses bas. Ils sont capables de faire des bons résultats.
Non,
c'est la question qu'on se pose, évidemment.
Non, honnêtement, parce que l'analyse, l'analyse de l'équipe du Bayern, c'est vraiment compliqué. Là, franchement,
je pense que le papier, interne, ils ont du mal à comprendre. Il y a aussi des très bons joueurs au Bayern.
Ils ont fait des très bons matchs, parfois.
Et ils ont
des très mauvais aussi.
Et des très bons investissements. Oui. Harry Kane, il vient.
Bien sûr.
Il en a, je ne sais pas combien de buts.
Eh bien, justement, Hervé, Thomas Tuchel, vous allez l'entendre parce qu'il y a des
petites... Il veut me répondre Ah d'accord, je l'attends.
Il y a des petites phrases.
Pas aimé ce que tu as dit.
Presque drôle. Non, presque drôle, parce qu'il compte... justement sur son buteur vedette ce soir, il compte sur Harry Kane à l'Emirates d'Arsenal.
L'efficacité d'Harry Kane avec le Bayern ne date pas d'hier. Je ne pense pas qu'elle va s'arrêter lors de cette rencontre. Je crois que c'est une expérience plaisante pour lui que de revenir à Londres pour affronter Arsenal en quart de finale de Ligue des Champions. Je suis persuadé qu'il sera ravi de marquer. Je ne vois rien qui puisse l'empêcher de le faire et je sens qu'il est particulièrement motivé. Quelle que soit l'équipe où il évolue, il se met au service du collectif, que ce soit avec l'Angleterre, Tottenham ou à présent à Munich. Je ne doute pas de son efficacité. J'espère qu'il contribuera à la victoire.
Tuchel, il a aussi entraîné à Londres et il connaît les adversités londoniennes. Et quand il dit qu'il a une expérience, c'est une expérience plaisante pour lui et il sera ravi de marquer, évidemment, un ancien de Tottenham marqué contre Arsenal. Il se fera un plaisir.
Et même un ancien d'Arsenal. Parce qu'Harry Kane, au tout début de sa carrière, quand il a 7-8 ans,
mais c'est vraiment le début de sa carrière, là.
Je ne sais pas
si on peut parler de carrière, d'ailleurs. Mais c'est quand même amusant, parce qu'un garçon qui a été rejeté d'Arsenal, que Tottenham ne voulait même pas, parce que Tottenham l'a refusé. Il est parti à Watford, il marque un hat-trick contre Tottenham avec les gamins, les U9, et il arrive à rebondir après à Tottenham, mais c'est quelqu'un que personne ne voulait jusqu'à ses 18-19 ans.
C'est un petit refus.
Mais jusqu'à ses 18-19 ans, il ne perçait pas.
Il jouait quoi? Il jouait en D4 ou D5, non?
Il était prêté dans les petites divisions. Et c'est devenu l'un des plus grands avant-centre au monde.
Donc la bête blessée peut ce soir montrer un gros appétit.
Je vais être avec vous. Je ne veux peut-être pas me prononcer pour ce soir, même si moi j'ai osé prendre des risques, contrairement à certains ici dans ce studio. Mais sur l'ensemble des deux matchs, je vois le Bayern. Parce que je pense que justement, cette expérience-là, ça va leur profiter. Mais ce qui est certain, c'est que je n'ai aucune lisibilité et compréhension de la saison du Bayern. Parce que le Bayern soit battu en championnat par Leverkusen, pourquoi pas? Ça peut arriver à un moment où vous ne pouvez pas gagner les championnats 50 ans de suite. Donc à un moment, il faut bien que ça s'arrête.
C'est très bien d'ailleurs.
Il faut bien que ça arrête. Mais c'est la manière dont ils sont battus. Là, vous avez Stuttgart qui est au même nombre de points. Ce qui est pas Stuttgart, vous êtes quand même loin du Bayern.
Ils ont totalement lâché.
Mais ça veut dire que sur la Ligue des Champions, je ne me fais pas trop de soucis. Les joueurs sont présents. En tout cas, les joueurs sont là.
Effectivement. Bon, ben, on en parlera évidemment aussi dans la deuxième émission. Ce soir, rendez-vous donc à 21h10. Temps universel. 23h10, heure de Paris. On espère par contre. Qu'il n'y aura aucun trouble autour de ces matchs parce que vous le savez, il y a eu des menaces proférées, c'est ça, menaces caractérisées du groupe État islamique autour des quarts de finale.
Ils aiment le foot aussi,
des champions.
Bah, visiblement.
Oui, théoriquement, ils l'interdisent, mais bon. Et ça sera des rencontres qui, autour de chaque stade, les services de sécurité sont sur les dents, que ce soit autour du stade d'Arsenal, à Madrid, à Paris demain soir.
Et demain à Paris,
Et Madrid. Et à Madrid, autour du stade de l'Atlético. Donc, espérons en tout cas que tout se passe bien dans ces quarts de finale. On continue, on refait un petit tour à Deauville, si vous le voulez bien, les amis.
On va aller prendre la pluie.
Sur les planches. Oui, et le vent.
Et il faisait beau.
Et le vent.
Ah, le vent.
Alors là, il faisait beau, mais aujourd'hui, je crois qu'il fait moins beau. Le clapotis des vagues et les mouettes. C'est zen,
on se croirait dans un film de je sais pas qui.
Lelouch.
Lelouch, on va chercher son nom. Claude Lelouch. Un homme, une femme.
Petit retour donc à Deauville. Ben, on est allé sur les lieux, on a photographié la plaque où ça s'était passé. Alors nous y étions la semaine dernière pour ce Sportdoc, ce premier festival du documentaire sportif. Et il mettait en valeur, notamment dans la programmation, ce parallèle entre éducation et valeurs sportives ou comment de futurs athlètes de haut niveau suivent aussi une éducation qui leur sera utile toute leur vie. Et on va entendre la réalisatrice de ce documentaire, Christina Hockel, une Allemande, puisque c'est un documentaire franco-allemand. C'est le documentaire qui s'appelle donc « Apprendre à être » et elle nous explique la philosophie de ces 18 minutes.
À la base, l'idée ou la réflexion, c'était de se poser la question pourquoi il y a certaines personnes qui ont un engagement sociétal, qui essayent de faire le monde un peu mieux qu'avant, et il y en a d'autres qui soit sont indifférents, soit voire contribuent à la destruction de ce monde. Et est-ce que l'école ou l'éducation, et plus précisément les pédagogues, ont joué un rôle là-dedans? Et on a essayé de trouver des protagonistes, on a trouvé dans des écoles allemandes, anglaises et dans le sport avec Philippe Breteau qui est vraiment un très impressionnant autant que pédagogue. Et on a essayé de montrer un modèle d'éducation du 21e siècle. Parce qu'en fait, comme le monde se présente aujourd'hui, ça ne suffit plus d'apprendre les maths et de pouvoir réciter certaines choses si on veut que les jeunes générations soient résilients ou peuvent gérer ce monde. Et en plus, dans le meilleur des cas, contribuent à quelque chose de positif, il faut former des personnalités. Et c'est ça ce qu'on a essayé de mettre en scène à travers ce film. Des pédagogues qui sont capables d'accompagner un tel développement personnel chez les jeunes.
C'est ce qui était important dans ce documentaire et c'est la raison pour laquelle vous l'aviez sélectionné, Philippe.
Oui, parce que j'ai comme j'étais en tant que directeur de la programmation, évidemment, j'ai suivi...
Tu étais directeur de la programmation.
Ben oui, monsieur. Oui, monsieur.
Je sais pas, est-ce que je peux encore te tutoyer?
Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez, cher Hervé. Non, mais ce qui était très intéressant, moi, j'ai suivi la progression d'un certain nombre de films de ce genre-là et je suivais les informations autour de notre notamment ce film auprès de Philippe Berthaud, donc le formateur français. Mm-hmm. Et oui, ce côté sociétal, ce côté éducatif, ce côté pédagogique faisait partie des critères intéressants. Vous remarquerez que dans le palmarès, en dehors de ce film, j'élargis un tout petit peu, il y a beaucoup de films qui étaient soit pour la gente féminine, soit plus sociétaux, plus qu'un jeu, par exemple. Bien sûr, le Grand Prix était un film sur les filles du Stade Français en rugby. Donc, il y avait cette recherche, et ce film correspondait complètement à cette recherche de films qui cherchent du sens, qui donnent du sens au sport.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur une planète différente, en fait, les footballeurs, même si on leur fait faire 5 ou 6 heures de football par jour. En tout cas, il y a quelque chose derrière qui est bien donner de l'éducation à des êtres humains. Et on va l'entendre, justement, Philippe Breteau, avec ses protégés. Alors, lui, il est de l'Institut National du Football, de l'INF. C'est l'antichambre des futurs membres de l'équipe de France.
Il a eu Mbappé, d'ailleurs.
Il a eu Mbappé, il a eu Thierry Henry, il a eu beaucoup, beaucoup de tous ces joueurs qu'on a vus ensuite apparaître et qui sont passés par l'INF. Ils sont à Clairefontaine et puis ils sont aussi dans le centre de la France. Il y a deux centres, en fait, de lieux où ils s'entraînent. Et on va l'entendre d'abord, Philippe Breteau. Comment il s'exprime quand il parle à un enfant ?
Ce qui est important, c'est de garder les valeurs. C'est-à-dire que, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, toutes les civilisations se sont inscrites sur une histoire. Donc il faut avoir une histoire qui est transmise par les anciens et que l'on veut transmettre à nos jeunes. Après, il y a une société qui bouge là énormément. On a connu donc la civilisation et le monde du transport où ça allait 3 fois plus vite là pour nos parents et nos grands-parents. Là, ils ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir aller aussi vite dans un autre pays. Les jeunes actuels sont capables de faire 3 choses en même temps. Par contre, ils sont incapables d'être concentrés plus de 8 à 10 minutes. Donc, comment on fait pour garder la même capacité d'éducation et d'essayer de toujours les amener à aller plus loin ? Donc, nous, on veut garder toujours sur l'éducation, parce que ça nous passionne, un temps d'avance.
Voilà cet éducateur, on va l'entendre. C'est un des extraits de ce documentaire quand il parle à un de ses protégés.
Quelles sont tes inquiétudes actuellement ?
Moi, actuellement, de pas signer dans un club.
Donc, est-ce que ça doit te paralyser, ça ?
Non.
Si tu es bon, est-ce que tu passeras dans un club ?
Oui.
Si tu as un club et que tu es mauvais, est-ce que tu seras pro ?
Non.
Voilà, t'as tout compris. Faut progresser. Si demain, t'as un club ou pas un club, ça change rien. Il faut toujours avancer. Hein ?
Oui.
D'autant plus ce message, Philippe, qu'effectivement, heureusement qu'il leur inculque des valeurs autres, parce que dans un centre comme l'INF, il y a combien d'élus ? On parle de Mbappé, on parle de tous ceux qui sont passés effectivement par là. L'Inkunku, qu'il a connu, Philippe Breteau, et tous ces joueurs, Coman sans doute, et ces joueurs. Mais tous n'iront pas aussi haut, justement. Ils n'étront pas, en tout cas, la même lumière, même s'ils jouent toute leur vie en D2.
D'où l'intérêt, évidemment, de former des hommes. Mais je trouve l'intérêt du document, c'est ça, c'est presque paradoxal de prendre comme base, parce que c'est le point de vue de départ du documentaire, c'est de voir des jeunes de l'INF, donc ceux qui sont intéressés a priori que par l'élite et par le côté je veux devenir une star, un international, etc.
Et là, ils ont une douzaine d'années.
Exactement, et de prendre ce point de départ pour au contraire dire mais non, mais ça change rien, ces gamins-là, il faut les éduquer, mais avec les mêmes méthodes que les autres, et en faire des hommes de qualité. Et ça les aidera pour être des champions en plus.
Vous m'avez rêvé. Imaginez que nous aurions fait le même type de reportage avec l'académie de Jean-Marc Guillou au départ. Mais ça aurait été incroyable. Ouais. Vous auriez vu des choses incroyables. Exactement. Avec des joueurs en plus arrivant dans les plus grands clubs du monde.
Justement, Philippe, nous, on est allés par exemple à Diambar il y a quelques années, et c'est ce qu'on nous a dit aussi. C'est-à-dire que tous les joueurs ne finiront pas en équipe nationale du Sénégal et même n'iront pas jouer en Europe ni rien. Mais il y a une éducation en parallèle de l'instruction sportive.
Ah bah, Diambar, c'était un début de départ, de toute façon. Hein. Ça faisait partie du cahier des charges, du côté de M. Seck, celui qui dirige le centre.
Saïr Seck.
Oui. Donc, ça, c'était la base de travail. Alors, évidemment, après, vous prenez au jeu quand même, parce que le but, c'est quand même de former des joueurs de foot et de préférence, si ça peut rapporter un peu d'argent, qui vont permettre de développer votre
ça
centre.
Ça finance
parce que
le développement du centre.
Voilà,
mais il y a quelques mois, Hugo Moissonnier avait reçu dans l'émission, c'était un jeune qui est devenu ingénieur, en fait.
Bien sûr.
Il est passé passé par une école de foot au Sénégal.
Dans le nord, non?
Oui, dans le nord de la France, du côté d'Arras, il me semble. Et finalement, il est devenu ingénieur. Donc, je veux dire, il n'a pas perdu son temps, même si c'est mieux que les autres jouent au foot.
Bien sûr, mais Jimmy Adjovi beaucoup et beaucoup travaillé dessus, etc.
Bien sûr.
Et puis, quand vous connaissez un peu les joueurs de Diambars, il y a plein de joueurs quand même, au niveau. Idrissa Gueye, Gana Gueye, c'est quelqu'un d'incroyable, super mec. Tchékou Kouyaté, etc. Enfin, il y a vraiment toute une génération de types bien. Vous avez Génération Foot aussi qui a énormément travaillé. Foot, ce qu'ils ont réussi à faire.
Il y a plusieurs académies maintenant.
Je suis vraiment bluffé, moi, pour avoir connu un peu le développement de, Génération Foot avec Madi Touré. Mais ce qu'ils ont fait, c'est phénoménal. La dernière fois que j'y suis allé, ils ont recréé encore de nouvelles choses.
Ceux qui ont formé notamment Sadio Mané.
Sadio Mané, oui, qui est passé
comme référence,
par,
mais pas le seul.
Oui, qui est pas le seul.
Aussi.
Aujourd'hui, la nouvelle pépite, pense-t-on, du football sénégalais, l'ami Camara, qui est à Metz, effectivement, est passé aussi. Mais ça veut dire que ça, ce sont des super modèles, parce que ça a permis à des jeunes qui partaient vraiment, pour certains, de rien, de vraiment rien, et ben, déjà d'avoir de l'éducation, de pouvoir progresser, de pouvoir s'insérer dans la vie active. Et puis, comme vous l'avez dit avec le joueur qui est parti et qui est devenu ingénieur dans de la France, ben là, c'est une vie qui s'est ouverte.
Hein, exactement.
Qu'il soit footballeur ou pas footballeur.
Alors, dans ce documentaire, Apprendre à être, donc, et qui est disponible sur Internet et notamment sur le site de la Fédération française de football, justement parce que la Fédération française de football a choisi d'ouvrir ses portes et l'INF, donc, aux caméras. Écoutons Jean-François Villotte, qui est le directeur général de la Fédération française et qui nous explique pourquoi ils ont voulu aussi ouvrir les portes sur ce volet et sur cette éducation de base.
Alors peut-être pour attirer l'attention sur le sport en tant que fait social majeur. Précisément, il ne se réduit pas à l'événementiel sportif, fût-il de très grande qualité. C'est un fait social majeur et c'est important de donner ce coup de projecteur pendant cette année olympique parce que en France, le sport n'est pas vraiment pris au sérieux. Je veux dire par là que contrairement aux cultures anglo-saxonnes, on vit le sport dans l'immédiateté de l'événementiel, mais on passe à côté de l'essentiel. La Fédération française de football, ce sont 2 400 000 pratiquants. Ce sont 900 000 jeunes. Ça veut dire qu'il y a 6 gamins sur 10 qui, avant la majorité, vont passer par un club de foot. Ça veut dire que c'est le troisième lieu d'éducation dans notre société, après la famille et l'école. Et c'est quelquefois, dans des quartiers en difficulté, le seul lieu, la seule institution sociale où les jeunes se rendent volontairement. Et ça crée une responsabilité formidable. Et ce qui est passionnant dans le film, c'est qu'on va comparer l'éducation au sport, l'INF, à d'autres modèles d'éducation. Et au fond, prendre le sport au sérieux, c'est de considérer que les compétences qu'on va acquérir au travers de la pratique, de quelque niveau que ce soit, sont des compétences qui vont être utiles dans la vie sociale, dans le parcours des individus tout au long de leur vie.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut essayer de tenter une carrière d'athlète de très haut niveau et en même temps de s'en servir toute sa vie, même si on n'aura pas atteint une médaille olympique ou une Ligue des champions.
Non, c'était bien de citer les chiffres par Jean-François Villotte se rendre compte de l'importance de ce que représente le football, et pas seulement en France. En Allemagne, il y a 8 millions de licenciés, vous vous rendez compte, sur une population de 80 millions. Je veux dire, c'est un fait social qui dépasse largement tous les débordements, tous les vices et vicissitudes que crée le foot. À côté de ça, c'est un fait social pour les jeunes qui est considérable, qui est fondamental. Et trop souvent, le foot l'oublie. Et le milieu du foot l'oublie au bénéfice. C'est bien les quarts de finale de Ligue des Champions ce soir. C'est bien. C'est vachement
mais
bien. C'est spectaculaire.
Le politique qui l'oublie aussi.
C'est un moyen d'éducation fantastique.
Et que c'est un monde qui, malheureusement, est en perdition. Moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Les écoles de football.
Le monde amateur.
Parce que le football, c'est le monde amateur au final.
Bien sûr.
C'est pas l'élite.
Bien sûr.
Et ce qu'on appelait d'ailleurs avant les écoles de football, on appelait ça les écoles de football où les gamins allaient jouer, s'entraîner. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de bénévoles parce qu'ils ne sont pas aidés, parce qu'ils ne sont pas défrayés, parce que les clubs ont de moins en moins de moyens.
Il y a de moins en moins de clubs aussi.
Il y a de moins en moins de clubs. De clubs meurent dans les villages où avant, l'activité principale, c'était d'aller jouer dans l'équipe de son village.
Bon, espérons que ce documentaire donnera envie de regonfler les effectifs de ces écoles.
Merci, Président. Hein, bravo.
Apprendre à être, vous le pouvez donc le voir sur Internet. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour l'après-match de ces quarts de finale de Ligue des Champions.